Actu SF, les podcasts.
Merci tout le monde d'être venu, il est tôt. Donc, on va mettre à la question un petit peu nos auteurs ce matin sur le thème ville réelle, ville imaginaire. Donc, on a avec nous Éric Lhomme, Alain Grousset et Sabrina Calvo. Voilà. Alors, plutôt que passer beaucoup de temps à présenter ces personnes, je vais vous faire entrer un petit peu plus dans leur texte en me proposant des petites lectures de ce qu'ils ont fait. Sur ce thème-là, Stéphanie Nicolas, la directrice, a sélectionné Nouvelle Sparte, donc le dernier roman d'Éric. Le voici. Alors, on a aussi Toxoplasma de Sabrina Calvo, qui vient d'avoir le Grand Prix de l'Imaginaire. Et alors pour Alain, parce que dans toute sa bibliographie incroyable, il y a plein de choses à dire, c'est la Citadelle du Vertige qui va nous servir de base de réflexion, mais je pense qu'on pourra partir sur d'autres choses, évidemment, et les autres aussi. Alors, on y va, on commence avec Alain. Ouais. Je vous montre juste l'illustration qui accompagne le texte que je vais vous lire. La cathédrale se partageait en trois parties distinctes. Le village, qui comptait environ 2000 âmes, occupait plus du tiers de l'étage. À son opposé se trouvait la nef, là où le dimanche se réunissait toute la population pour l'office. Cette partie était richement décorée par des statues, des vitraux et autres ornements. Enfin, pour séparer le bâtiment religieux du village, une immense place d'allée servait de parvis. C'était le cadre des grandes fêtes qui ponctuaient la vie de la cathédrale. Les deux étages immédiatement inférieurs étaient la propriété exclusive du seigneur. Interdiction était faite aux gens du village d'y descendre. Ils étaient sacrés. Le tabou religieux, et surtout la présence d'hommes armés, savait décourager les plus téméraires. Quant à plus bas, trois petits points. Dans ce morceau-là, cet extrait, on comprend que cette cathédrale qui semble être une cathédrale médiévale, en fait, est organisée de manière très particulière. C'est une ville.
Oui, cette cathédrale gothique a des centaines d'étages et il est formellement interdit de redescendre. Et dès qu'un étage est fini, on continue à en faire un autre. Et bien sûr, mon héros va descendre, sinon c'est pas marrant. Mais voilà, donc moi j'adore les mondes clos. Et ça, c'en est un. Les gens ne peuvent pas sortir, ils ne voient même plus la terre tellement ils sont hauts. Voilà, ça m'intéressait d'avoir ces gens-là sous la main et de pouvoir... les faire évoluer dans ce monde depuis des centaines d'années, dans ce monde clos.
J'ai l'impression que là, le lieu, la ville, c'est le prétexte ou le départ de l'écriture, non ?
Oui, bah, je pense que les villes imaginaires n'ont que de cet intérêt, c'est-à-dire de mettre en situation des personnages pour développer un romanesque intéressant. Et le fait de les... Moi, dans les mondes clos, parce que j'en ai fait plusieurs sur les mondes clos, de les contenir dans un endroit, et c'est de voir comment cette société va évoluer au fil du temps dans ce monde-là, sans contact extérieur.
Ok. Alors, on va aller vers une autre ville. Donc, avec un extrait de Toxoplasma. Donc, on est à Montréal. Nikki se tient debout dans sa ruelle, à l'endroit où elle avait cru apercevoir quelqu'un la nuit précédente. Elle cherche des mégots, quelque chose qui pourrait lui indiquer la réalité de cette vision. Rien. Il a plu toute la nuit. À son réveil, Kim était déjà partie, laissant sur le matelas un creux tout chaud, un cheveu, une odeur de petit rat qui fait sa toilette, probablement déjà en retard pour son run. Dans l'appartement voisin, la violoniste faisait ses gammes. Nikki s'était décidée à ne pas prendre une douche pour se lancer direct dans l'enquête, quitte à vraiment se rendre tard au boulot. Hippolyte s'en bloquait avec ses retards, bien plus qu'avec son attitude. Alors, autant tirer la corde jusqu'au bout, mais s'il croit qu'elle va s'assagir, il se fout bien le doigt dans l'œil jusqu'au coccyx. Tout au plus envisage-t-elle de ne plus l'insulter sans discuter. Elle arpente le dédale de ruelle, le nez collé au sol. Elle a une loupe dans le kit de son couteau pour voir les petits détails qui lui échapperaient, mais elle ne l'utilise que rarement. Ses copains se foutaient de sa gueule quand elle s'entraînait dans la cour de récré. Elle en a gardé une sorte de honte. Non, Être Sherlock Holmes, c'est pas pour les meufs. N'empêche. Maintenant, c'est elle qui suit les traces d'un crime, d'un meurtre sordide dont pour l'instant tout le monde se fout. Ils sont où tous les petits cons de sa classe maintenant ? Banquier ? Manager de McDo ? Facteur ou docteur ? Et encore, avec la guerre, peut-être sont-ils déjà tous crevés ? Elle fouine dans les fourrés, sur toutes les surfaces. Dans le quartier, depuis 2 ans, elle a déjà référencé la grande majorité des signes de territoire et leur évolution. Un pli qu'elle a pris en vivant dans sa cité de province de l'autre côté de l'Atlantique. Une fascination pour la logique de rue, le quadrillage symbolique du pouvoir dans l'espace public. Elle sait tracer l'arrivée et le départ des fratries, des groupes d'immigrants, des locaux, des natifs, des pauvres neuneux qui ne savent pas ce qu'ils font, des jeunes qui cherchent à impressionner leurs meufs en traçant des croix gammées mal foutues. « Même pas cap !» écrit à côté. Elle sait que le territoire n'existe que dans le cœur de ceux qui le vivent. Alors là, dans cet extrait, moi, je le trouve vraiment très intéressant. On rentre dans la ville, et on rentre dans la ville avec une recherche, quelque chose à trouver.
Oui, en fait, elle enquête sur le meurtre d'un raton laveur, qui est une histoire réelle. Hein. C'est un fait divers qui m'a donné le point de départ du livre. C'est un raton laveur qui a été dépecé, décapité et placé dans une petite nacelle de balançoire pour enfants dans un parc public. Et elle enquête en fait sur la mort de qui ça donc c'est arrivé dans le parc à côté de chez elle et donc elle enquête sur ça en fait et elle essaie de savoir pourquoi cet animal est mort et du coup ça c'est en bas de chez moi enfin c'est en bas de là où j'habitais encore jusqu'à il y a quelques mois c'est une ruelle dans le quartier de, au bout de petite patrie de Montréal un coin pas du tout enfin qui était pas gentrifié quand je suis arrivé il y a 4 ans mais qui maintenant devient comme beaucoup d'endroits en Amérique du Nord complètement envahi par une certaine forme de vision du social et de la vie de quartier. Mais c'est surtout, tu parlais de monde clos, dans ce bouquin, Montréal est un monde clos. C'est déjà un monde clos parce que c'est vraiment de Montréal c'est vraiment de bloc en bloc, tout est différent. Quoi. Les communautés sont différentes, on peut passer d'une communauté portugaise à une communauté italienne, l'espace de 2 blocs comme ça. Et ces blocs-là, nous on vit dans le quartier, moi ça fait 4 ans, je suis très peu sorti de mon quartier. Quoi. Il y a une espèce d'enfermement comme ça, et le bouquin entier est une histoire d'enfermement puisque Montréal est assailli par les forces de la royauté. Bon, le monde a basculé depuis un certain temps déjà dans une forme de fascisme néolibéral un peu étrange comme ça, et Montréal a déclaré une commune et les milices anarchistes ont pris les ponts de Montréal, qui est une île donc, et à l'intérieur de Montréal vivent ces gens, à l'intérieur de leur quartier aussi, donc c'est vraiment le ghetto du ghetto quoi. Et voilà, donc c'est comment est-ce que ces gens s'occupent et survivent finalement à l'effondrement de leur système idéal quoi.
Merci. Non, et Eric, dans Nouvelle Sparte, on va retrouver un petit peu aussi cette idée de quelque chose de clos, en partie en tout cas. Alors, en fait, il y a 2 villes. Bon, il y a la Nouvelle Sparte et puis il y a Paradise. À Nouvelle Sparte, c'est la plus étonnante, en fait, Paradise l'est aussi, mais finalement, c'est qu'un futur probable. Donc, c'est Nouvelle Sparte qui est particulièrement étonnante. Et ce qui est aussi très intéressant là dans ce travail que tu as fait, c'est le travail de la langue, donc avec des compositions de mots. Le français compose peu les mots par rapport à d'autres langues, et là il y a énormément de compositions pour essayer de toucher 2 facettes d'un acte, souvent des verbes, et ça donne une sorte de nouvelle langue. Qui reste très lisible et pourtant qui déstabilise un petit peu parce qu'il y a des moments où on se dit mais en fait oui c'est ce mot là c'est exactement ce mot là, c'est pas l'un ou l'autre, c'est ce mot là donc du coup pendant la lecture si vous en entendez ne vous étonnez pas. Il restait du temps avant le rendez-vous. Valère décide de faire un détour par la grande antenne, structure tubulaire plantée à l'ouest de Nouvelle-Sparte, pour capter diffuser les programmes dans le monde d'après. Les séries glamourantes d'Oxydie, bourrées de moraline, les prêches enflammées et les criminels vifs châtiés en direct du Dar Islam, les trop longs tournois de Go et les représentations de théâtre No de la Muraille. Tout était accessible aux citoyens baïkaliens sur leur micro-tablette, en vertu de l'accord global de réciprocité. La fédération proposait en échange ses jeux sportifs et poétiques, ses parties de chasse au bison des bois et ses 8 clos théâtreux tantôt philosophiques, tantôt érotiques, ces derniers remportant partout un grand succès. Valère marche dans la ville éclairée par les sphères phosphoreuses, fouettée par la froidure de l'air, en direction de la haute masse métallique juchée sur une hauteur. « J'aime ma cité », songe-t-il. Alors, du coup, à l'oral, je trouve ça dommage parce qu'on les entend pas, en fait. On les entend beaucoup moins. Faut le lire, quoi.
Oui, je suis parti d'une situation. Enfin, c'est un roman qui est difficile à situer parce que c'est à la fois post-apocalyptique, mais en fait, la situation d'apocalypse n'a aucun intérêt. Ça se passe 200 ans après. C'est une anticipation, mais pas vraiment, puisqu'on est dans un autre monde causé par l'apocalypse. C'est même pas dystopique. Voilà, bon, c'est futuriste. Et le point de départ, c'est une situation donc de grande catastrophe qui balaye le monde tel qu'on le connaît. Et le monde se recompose après ce chaos. Pareil, on parlait d'enfermement, de clos. Et il se recompose selon des espaces de civilisation. C'est pour ça qu'il y a l'Occidie qui regroupe tout ce qui reste de l'Occident, mais qui aurait dégénéré à un point ultime. Il y a le Dar-Islam qui regroupe tout ce qui reste de l'islam, la muraille qui regroupe tout ce qui reste de civilisation asiatique, et Nouvelle Sparte. Alors, Nouvelle Sparte, c'est une utopie créée par une poignée de survivants de cet apocalypse, et qui est partie recréer loin des rives de la Méditerranée, sur les rives du Baïkal, pour le contraste, pour l'isolement, pour tout ça. Une cité grecque. Et donc 200 ans après, on se trouve, l'action commence dans cette cité qui a évolué, et puisqu'on continue à prier les 12 dieux olympiens dans leur temple de la cité, mais en même temps on est survolé par des avions à hydrogène, et cette cité est construite pour faire face aux aléas particuliers du climat baïkalien, avec une partie de surface d'été pour les rares moments où il fait chaud, et l'équivalent en miroir en dessous. Chaque appartement est double. On prend ses quartiers d'été, on prend ses quartiers d'hiver, et voilà, ça permet de recréer toute une ambiance, toute une atmosphère.
Donc vous avez des textes très différents. Et puis en même temps, il me semble que on peut trouver là donc l'idée du monde assez clos. On l'a vu déjà. Il y a un contexte post-apo. Alors toi, Alain, c'est pas forcément du post-apo, mais il y a un contexte peut-être hors temps. Eric, tu nous dis que c'est pas ce qui compte le plus. En effet, j'ai pas l'impression, Sabrina, que ce soit non plus temps ce qui compte le plus dans Toxoplasma. C'est un prétexte, j'ai l'impression, le fait que ce soit dans un autre temps qui permet d'imaginer en fait une ville nouvelle. Est-ce que c'est ce que vous vouliez faire, utiliser cette histoire de trucs dans le temps, mais en fait l'intérêt c'était de pouvoir créer une ville.
Les auteurs sont des dieux vivants, puisqu'ils créent ce qu'ils ont envie de créer. Et c'est tout l'intérêt de la chose. Donc après, lorsqu'on se met à créer une ville, on a envie de... Tout de suite, on pense au moment où on commence à échafauder des plans, de savoir ce qu'on va y mettre dedans et quel ressort ça va nous donner. Donc moi, cette citadelle, elle est uchronique, puisque... Bon, je peux vous révéler la fin, vous n'êtes plus en sixième, puisque le livre est destiné au sixième, cinquième. Donc lorsqu'on descend cette cathédrale, en fait, on s'aperçoit qu'elle ne repose absolument sur rien, et qu'elle flotte dans l'air, et que les pierres du dessous se détachent et remontent en haut. Et c'est le seul moyen qu'ont trouvé des extraterrestres qui sont arrivés au moment du Moyen-Âge de prendre la plus haute technologie de l'époque. Et comme ils vivent une temporalité qui n'a rien à voir avec celle des humains, ils ont décidé de repartir avec un vaisseau en pierre dans l'espace. Ils ont là cette force pour faire léviter ce vaisseau de pierre, mais pas assez pour combattre l'attraction terrestre pour pouvoir partir dans l'espace. Donc ils attendent que plus on va monter haut, plus l'attraction, la gravité va se faire moindre et pouvoir s'échapper. Bon, bien sûr, tuant tous les humains, mais ça, ils ne sont pas pressés, ils les aiment bien, ça ne sera pas un problème pour eux. Donc voilà, donc c'est complètement fou dès le départ, mais moi j'ai vu ça face à une cathédrale, en voyant très loin, ou un style un peu, si vous voulez vous imaginer, un peu le Mont-Saint-Michel le matin dans les brumes, où on voit un vaisseau prêt à partir sur un astroport, quoi. Donc c'est une vision, c'est une idée, et après d'un seul coup on se met à échafauder tout ça pour rendre la chose la plus romanesque possible.
Merci. Sabrina, peut-être le contexte post-apo, c'est un prétexte pour une ville nouvelle ?
Non, pas vraiment, je pense pas. Au contraire, je pense que c'est hyper important d'avoir ça, puisque l'existence même de cette ville est conditionnée par le monde dans lequel on est, et c'est une situation d'effondrement. Et ce monde post-apo, qui n'est pas vraiment post-apo en fait, hein, il est même rétro-apo plutôt, puisqu'ils sont plutôt, ils ont accès à un certain nombre de ressources. Y a pas, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le monde, on entend parler de guerre, il y a Trump, mais on est dans une espèce de futur proche, rétro-futur proche. Moi, j'essaie pas d'être réaliste à ce niveau-là. Par contre, je pense que c'est très très important pour moi que ce soit pas simplement une tapisserie, que ce soit quelque chose qui informe tous les gestes, toute la responsabilité, toutes les habitudes, toute la manière dont les gens fonctionnent finalement est conditionnée par ce qui se passe autour d'eux et pourquoi ils sont là, quoi. Et l'effondrement de la commune à la fin du livre, qui est pas une surprise, hein, je veux dire, elle est annoncée dès le début du livre. C'est quelque chose qui, c'est un apocalypse. Moi, je m'intéresse beaucoup au moment de l'apocalypse. En fait, pas au moment du basculement, qui est jamais un basculement immédiat comme ça, qui est un espèce de languissement, quoi. Les choses ne changent pas, elles rouillent, quoi. Et on est dans la rouille là, on est dans la rouille, et des fois il y a des pressions comme ça du pouvoir qui vont s'exercer et qui vont faire tomber des choses, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand les choses changent, elles changent de manière infime, et toutes les théories de l'effondrement aujourd'hui politiques sont très intéressantes à ce niveau là elles montrent bien qu'en fait il n'y a pas d'effondrement d'un coup. Ce qu'il y a, c'est des effondrements progressifs de certaines sociétés, de certaines modalités, de certains droits qui reculent et tout comme ça, et c'est comme des dominos, mais c'est très très lent, et des fois il y a des résurgences de choses. Donc moi je crois qu'au contraire c'est très très important de prendre ça au sérieux, surtout qu'en plus quand on travaille avec de la matière du contemporain, moi j'aborde de front ce qui se passe au niveau de la destruction de la société par la mise en mesure du monde par les idéologies essentialistes, par une forme d'obscurantisme de la pensée, quoi. Et je pense que c'est des choses, à partir du moment où on les utilise, on peut pas les utiliser simplement comme tapisserie en disant méchant capitaliste, et puis ils viennent nous taper dessus, quoi. Je pense qu'au contraire, il faut que ce soit quelque chose qui permette de montrer comment est-ce que l'humain résiste face à ça, ou du moins ou collabore face à ça, ou essaye de changer les choses. Donc pour moi, la condition de cette commune, donc l'existence de cette ville, qui est à la fois ville réelle dans le territoire et dans les murs, et qui est à la fois ville imaginaire par le peuple qui essaye de reconstruire comme ça cette espèce de communauté idéale, pour moi c'est fondamental de l'ancrer dans quelque chose qui tous les jours, à chaque ligne, doit transparaître, en fait, quoi. Donc c'est absolument pas un prétexte, au contraire, c'est le fond du sujet, en fait, c'est ça, quoi. C'est ça.
Du coup, Eric, alors on était parti de. Tu nous disais, voilà, l'important, c'est pas tant ce contexte-là que. Mais en fait, c'est hyper organisé. Le contexte, Nouvelle Sparte, c'est cette pièce de puzzle. Et en plus, on a un personnage qui va aller dans une autre pièce de puzzle, finalement. Une confrontation de différentes vues, différentes vies. Qu'est-ce que t'en penses ? Pour toi, c'est un prétexte, ça, ou,
Non, le contexte apocalyptique n'est pas un prétexte. Ça n'est pas le sujet du livre, mais c'est indispensable, c'est une condition préalable. Pour pouvoir reconstruire le monde, il faut que je le casse. Voilà, c'est quand on joue au Lego, on a fait un camion, et si on veut construire un vaisseau spatial derrière, quand on n'a pas beaucoup de pièces, on éparpille et on recommence. Et donc le contexte post-apo n'est pas capital, mais il rend compte d'un état du monde. Et après, oui, moi, ce qui me semble intéressant, c'est de ne pas oublier qu'une ville sans habitants, ça ne sert à rien et ça n'existe pas. Et tu parlais tout à l'heure de Nouvelle Sparte en opposition à cette ville de Paradise qui est la capitale de l'Occidie. Dans mon livre, j'ai effectivement essayé de reproduire dans l'architecture, dans la ville, dans la description de la ville de Nouvelle Sparte et celle de Paradise, la manière dont une société fonctionne. Et Nouvelle Sparte, je parlais de la cité un peu miroir, mais c'est également une cité ouverte avec une agora où chacun peut venir prendre la parole, chaque orateur peut venir parler de philosophie, de poésie, où les temples sont ouverts à tous pour honorer les dieux, non pas dans une dynamique de suggestion, mais parce que le monde étant totalement imprévisible, et ben il est bon d'aller se concilier toutes les aides possibles pour faire face à cet avenir que l'on ne maîtrise pas. Et c'est également une cité qui joue sur les tons blancs lumineux pour capter la lumière rare que l'on trouve autour du Baïkal. C'est une blancheur qui se teinte souvent de rouge. D'ailleurs, ce sont les deux couleurs de la fédération, parce qu'il y a de somptueux couchers de soleil et levées de soleil qui viennent éclairer tout ça. En balance, en rapport à ça, il y a Paradise qui est au contraire organisé en cercle concentrique avec les riches, c'est ceux qui les jetous. En fait, ce qu'on se qualifiait comme ça, les Jetous par les néo-spartiates, qui vivent dans un quartier ultra protégé au centre, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne en anneaux concentriques vers la périphérie, eh ben, on tombe dans la misère, ceux qui sont au service du premier cercle, etc., etc. Donc c'est la ville reproduit l'esprit de ses habitants, en fait. Et Paradise est une ville complètement close qui est bâtie autour de cercles.
Quand tu fais le geste, il n'y a pas seulement, il me semble, les cercles à plat, il y a cette idée qu'il y a les tours au centre pour les jetous, et après il y a cette espèce d'écrasement en descendant.
Pour les Gériens,
voilà. Ouais.
Gériens, ouais. Parce que je me suis amusé dans les mots recomposés à donner une définition redonner une définition de l'homme dans à Nouvelle Sparte. Ce qui est important, c'est d'essayer de déterminer son je suis, de l'accorder à son je fais pour arriver à un nous ensemble, en fait. Et Paradise, c'est le je possède qui sur lequel on juge les gens. Hein. Et quand Valère, mon personnage, l'un de mes héros, se retrouve à Paradise pour enquêter sur des attentats qui ensanglantent Nouvelle-Sparte, ça va être un choc pour lui de constater que l'être est totalement abandonné au profit de l'avoir à Paradise. Chaque cité étant reproduisant de manière concrète, architecturale, imagée, l'esprit finalement des habitants.
Je trouve que c'est très intéressant cette idée de verticalité qui peut poser souci. On a la même chose dans la citadelle, Alain. Et Sabrina, c'est pas dans Toxoplasma, ce serait dans Sous la colline avec Le Corbusier. C'est la façon dont Le Corbusier a construit des cités en hauteur et close et ouverte en même temps en termes de lumière. Et, donc est-ce que on pourrait se dire, c'est une supposition, hein, que la verticalité, elle est souvent associée justement à l'idée de problèmes, de pauvreté, parce qu'on penserait aux tours de cité qui sont où il y a trop de monde, ils sont tous enfermés. Ou alors, la verticalité, ça peut être aussi justement des beaux projets, quelque chose qui lance vers le ciel. J'ai l'impression qu'il y a les deux dans cette idée, dans les tours, en fait.
Ce concept-là n'est pas nouveau. IGH de Ballard, c'est ça. C'est-à-dire, les riches sont en haut, les pauvres sont en bas. Ça s'est toujours fait. Il n'y a qu'au 19e où les riches étaient au milieu et les pauvres étaient en haut dans les chambres de bonne. Mais sinon, le reste du temps, effectivement... C'est une manière aussi de se protéger du bas peuple, descendant, comme dirait quelqu'un. Donc en se mettant en hauteur et puis en dominant, c'est une forme de dominance aussi. Donc ça, c'est important aussi. Bon, c'est aujourd'hui. Bon, Eric parlait des cercles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Paris? Les plus riches ont une habitation. Et puis après, moins on a d'argent, plus on fait de kilomètres pour trouver un logement. et les pauvres sont à l'extérieur. Bon, donc voilà, c'est un reflet de la société. Mais je crois que les auteurs de science-fiction passent leur temps à mettre le curseur en haut pour pousser un petit peu plus loin la réalité des choses. Et donc en même temps qu'ils font ça pour les humains, ils font ça aussi pour le lieu où habitent ces humains et de savoir comment va évoluer la ville. Bon, il y a des projets, d'architectes de faire des tours à 1 million de personnes, donc des pâtés de ville. Bon, ben voilà, en France, il y aurait 70 immeubles et puis ça serait tranquille. Tout le reste pourrait être de la nature et des champs. Donc il y en a qui pensent sérieusement à ça.
Dans Sous la colline, voilà, on découvre cette cité à Marseille du Corbusier. Donc il y en a d'autres des cités, mais celle-là est quand même la plus connue.
Ouais, ben déjà, juste pour revenir, c'est que je pense que les riches sont surtout en haut, parce que c'est vrai que les problèmes de voisinage, c'est souvent les gens qui marchent au-dessus, au plafond, et puis on n'aime pas avoir des gens au-dessus, quoi. Et puis au Corbusier, c'est rigolo, mais plus on s'élève et plus c'est riche. Pourquoi ? Parce que plus on a la vue sur la mer. C'est bête à dire, mais parce qu'en bas, quand on est au ras des immeubles, voilà, c'est une question de standing, et puis on fait caca sur la tête des autres, en fait. Il y a tout qui descend, quoi. C'est toujours pareil. Mais après, moi, je réfléchis à la notion d'archéologie, qui est une notion d'urbanisme un peu utopiste qui a été développée à un moment donné pour dire justement comment est-ce qu'on pourrait avoir un centre qui est en verticalité et qu'au fur et à mesure, on est circoncentrique, mais que justement, ces circoncentriques ne soient pas une exclusion de la pauvreté, mais soit au contraire une forme de résidentialité en fait, et que le centre soit utilisé pour le travail et pour l'énergie de la ville en fait. C'est rigolo parce que Disney lui-même qui a dévoyé complètement sa vision, mais à un moment donné sur Epcot, qui était donc à la base Epcot Center, enfin c'est devenu Epcot Center, c'est-à-dire c'est devenu un parc d'attractions, mais à la base, donc à Walt Disney World en Floride, à la base c'était une cité du futur, c'est Experimental Prototype Community of Tomorrow Epcot, quoi. Et il voulait vraiment créer une ville, c'était son délire hein, à Disney, hein. Il voulait vraiment faire ça et tout, et il avait commencé à conceptualiser des choses qui étaient assez proches des concepts d'archéologie, alors qui n'étaient pas aussi poussés en termes de métaphores de l'organisation du travail, de l'organisation de la vie, mais on avait cette idée que les très très riches étaient à l'extérieur, enfin les très très riches, tout le monde était à l'extérieur dans des résidences, puis après on avait les espèces de commerces privés, les supermarchés, etc., et on avait le centre de la ville qui correspondait à la manière dont la ville était gérée, l'administration, la politique, les ressources énergétiques, des choses comme ça, quoi. Donc il y a tout un tas de modèles. Nous, on a des modèles aujourd'hui qui correspondent à ce qu'on voit aujourd'hui. Et alors, c'est très intéressant, le Corbusier, parce que donc le Corbusier a mis en place ses prototypes. A mis en place ces immeubles dans les années à la fin des années 40. Lui ce qu'il voulait, c'était le premier à aller à Vichy. Hein. Le Corbusier, c'était très drôle d'ailleurs, on oublie souvent ça. C'est quand la France a été dévastée, il était le premier à vouloir la reconstruire. Et alors on a souvent dit oui, mais c'est un artiste, il voulait avoir le machin. Ouais, enfin bon, le mec il s'est pointé à Vichy tout de suite en disant hey, c'est moi qui dois refaire la France et tout. On voit bien où était son curseur politique. Hein. Et du coup, quand il s'est lancé dans la construction de ce qu'on appelait l'unité d'habitation, plus tard la cité radieuse et compagnie, c'était vraiment un ensemble de bâtiments, comme ça, il doit y en avoir trois, qui étaient des environnements clos, très très loin des centres-villes. Hein, quand il a créé ça à Marseille, derrière Saint-Génier, c'était des champs, hein, il y avait des vaches hein, là-bas. Enfin, après, il y a eu des tanks, mais bon, à base, c'était des vaches. Et donc, du coup, il voulait créer cette espèce d'immeuble insulaire, ce qu'il appelait un phalanstère, qui était sur pilotis, où les gens pouvaient tout faire à l'intérieur. Maternelle, supermarché, la première supérette casino a ouvert au Corbusier. Le toit qui était censé être le jogging avec gymnase et compagnie, on devait pouvoir tout faire là, parce qu'on était loin du centre, et ils voulaient créer cette idée sociale avec des ouvriers pour tout le monde, en fait. C'est une idée qui a un peu fait long feu et compagnie, et il n'a pas pu construire les autres, mais ce qui est très intéressant, c'est que...
Il a fait celle à Nantes.
Il a fait celle de Nantes. Le truc, c'est que à un moment donné, les gens ont commencé à reproduire le modèle du Corbusier de bar, comme ça, parce que c'est une barre de béton, hein, autour du Corbusier, et on a commencé à faire des bars qu'on appelle des cités maintenant, quoi. Et le Corbusier est criblé de cités autour. Enfin, il y a plein de cités comme ça, plein d'énormes bars. Ça culmine avec la Rouvière, qui est une cité monumentale. Mais quand je parle de monumentale, faut la voir. Hein. Elle est dans les collines là. C'est une espèce de gigantesque bar. Je sais pas combien ils sont là-dedans, quoi. Et des appartements très bien par ailleurs. Hein. Mais c'est une muraille, littéralement. On la voit à Marseille dès qu'on arrive. On voit cette espèce de muraille sur les collines comme ça, qui est une imitation du Corbusier. Sauf que il n'y a pas du tout la qualité d'habitation que lui voulait donner, parce qu'à cause des normes, par exemple, on n'a plus le droit d'habiter les toits. On a plus le droit d'aménager les toits. Les toits, c'est pour les gaz, les échappements, les cheminées, la logistique, mais c'est plus du tout pour les gens, quoi. Et donc, du coup, on a ces espèces de copies, voilà, et qui sont complètement dégradées, et qui sont devenues des espèces d'endroits, un peu des cages à poules maintenant, quoi. Et ça, c'est assez désarmant, en fait, de voir à quel point on a perdu, finalement, une vision qui pouvait être intéressante et qui a été finalement rangée. Voilà, je voulais dire autre chose et qui était super intéressant, puis j'ai oublié.
Quand tu le retrouves, tu me dis.
Ouais, c'était sur le sujet. Je me suis dit, oh là, oublie pas de dire ça. Et puis, hop, c'est parti.
Alain, vas-y.
Mais je crois que les phalanstères aussi partent d'une superbe idée. Bon, chez Godin, la phalanstère de Godin et tout, c'était génial. Mais en même temps, quand on y réfléchit un petit peu plus, on se dit, tiens, c'est marrant. Dans les ouvriers travaillent à l'usine, payent le loyer d'une habitation que le patron a construit. Les magasins, ils vont acheter le commerce. Ça appartient aussi au patron. Donc, en fait, finalement, les écoles et tout. Donc, l'argent circule en cercle et tout est ramené au patron. Donc, pour moi, ce n'est pas aussi évident que ça. C'est une manière aussi de tenir un peu tous les gens. Et le fait de dire, comme là, Le Corbusier, les gens n'ont même pas besoin de sortir de leur immeuble, c'est une manière aussi de contrôler les gens. Hein. Donc, parce que si tu ne bouges pas là d'où tu es, tu n'as pas d'apport de sang neuf et ni d'idées neuves. Donc on maintient les gens vraiment en vase clos. Et ça, c'est ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'auteurs.
Mais bon. Oui, et puis c'est ce qui vous intéresse, j'ai l'impression, dans ces livres-là spécifiquement, parce que dans ton cas, Sabrina, dans Toxoplasma, la ville est fermée. Toi aussi, Alain, la ville est fermée. Voilà, en plus, elle flotte, donc il n'y a vraiment même pas d'échappatoire physiquement. Hein. Et Eric, dans Nouvelle Sparte, le héros, il va être catapulté ailleurs. Elle n'est pas fermée en soi, et en même temps, c'est quand même très compliqué de sortir. C'est une
cité qui est totalement ouverte sur un très vaste arrière-pays, mais bon, faut avoir envie quand même. C'est toutes les rives du Baïkal, ce sont les montagnes, ce sont les forêts peuplées de bêtes sauvages. Parce que Nouvelle-Sparte, c'est aussi une organisation qui s'inspire du mode d'organisation des cités antiques, donc avec le système de la cryptie pour le passage à l'âge adulte, où on est lâché dans une île totalement sauvage. J'ai un peu arrangé, hein, mais on est lâché pendant 9 jours et 9 nuits, on est nu et on doit survivre, entre guillemets. Bon, évidemment, il y a tout est prévu si ça se passe mal pour qu'on puisse s'échapper, mais il y a cette idée de l'environnement est important, et pour survivre dans son environnement, on doit être aussi adapté, on doit être dur par rapport à son environnement. Mais c'est effectivement Nouvelle-Sparte et le territoire qu'il y a autour, qui dans le livre s'appelle la Baïkalie. J'ai voulu faire ça pour inscrire la réflexion également dans une question très actuelle, c'est parce que j'oppose ça à l'Occidie, à beaucoup de choses. Habiter une ville, est-ce que ça suffit? Habiter la même ville, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas partager une vision commune pour l'avenir de cette ville, se revendiquer d'un même héritage par rapport à cette ville? Tout ça, ce sont des questions que j'aborde. Et Nouvelle-Sparte est une cité qui est ouverte, comme pouvait l'être la Sparte antique qui n'avait pas de murailles. Tout était ouvert comme ça. Considérer que si les citoyens spartiates n'étaient pas capables de constituer eux-mêmes la muraille avec leur bouclier, c'est qu'ils ne méritaient pas d'avoir leur cité. Et donc c'est à la fois ouvert, mais en même temps, c'est tous ces morceaux de monde recomposés, le monde d'après, comme je l'appelle, ce sont des parties qui vivent quand même en vase clos. Donc c'est à la fois ouvert et c'est à la fois fermé, parce que ce sont des vastes communautés qui n'ont plus rien à échanger, qui ont tellement été marquées par cette situation, enfin par cette apocalypse, ces grandes catastrophes, qu'ils ne veulent surtout pas recréer les conditions qui les ont permises, quoi, en quelque sorte. Bon, ce sont des réflexions. Ce sont pas. Voilà, c'est un roman. C'est...
Ouais. Alain.
Oui, je voulais leur demander quid de la religion dans vos cités, parce que moi je vois dans la citadelle, c'est le ciment, la société tient
l'identité,
par ça.
L'identité, oui, de la ville, c'est
personne ne s'amuserait à construire une cathédrale, toujours des étages plus haut, tout le temps, s'il n'y avait pas une forte imprégnation de la religion. Donc, comment vous en êtes sorti, vous, parce que chaque ville, chaque société va développer une certaine religion. Donc, toi, si c'est un monde en déliquescence, ou toi, Sparte, je ne sais pas, il n'y a pas de rouquin là-bas, parce qu'il est tué.
Attention aux clichés, hein, monsieur. Si, évidemment, la religion est très importante, mais j'en fais d'ailleurs une partie de la réflexion globale du roman. La Nouvelle Sparte est une société clairement polythéiste, et j'ai essayé d'imaginer la manière dont, dans un environnement futuriste, on pouvait toujours honorer les dieux antiques. Et par rapport à Paradise, qui est une Eloxidie, qui est un espace privé de Dieu, où le seul Dieu, c'est la consommation, c'est la richesse, c'est l'argent, etc. Et tout le monde se positionne par rapport à son degré de richesse et ce que l'on possède. Dans Nouvelle Sparte, j'ai essayé de... Alors je n'en fais pas, ça n'est pas une utopie, c'est pas une cité idéale. Et d'ailleurs, tout le fond du livre, c'est de montrer de multiples basculements au sein même de Nouvelle Sparte. Tout le monde n'est pas parfait, même et surtout à Nouvelle Sparte. Mais ça me paraît très important. Et à un moment, je ne donne pas trop de détails, mais à Paradise, mon héros Valère se retrouve moqué, se retrouve brimé en quelque sorte par de riches oxydiens, et vient prendre sa défense le fils d'un ambassadeur du Dar Islam qui se retrouve avec Valère, dans le sens où tous les deux finalement ne comprennent pas l'Occidie qui vit sans Dieu, enfin qui vit sans transcendance, qui vit sans quelque chose qui leur permet de se déterminer un repère spatial autre que celui qui est à ras de terre. Et voilà, bon, ça permet beaucoup de réflexion.
Du coup,
c'est l'argent, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si les religions ont un moins d'impact, c'est parce que les gens se disent, avant là, on avait des soucis, on s'en remettait à Dieu pour dire voilà, je suis dans la peine, ou aidez-moi, j'ai pas de travail et tout. Et maintenant, les gens essayent d'accumuler le maximum d'argent et tout, parce qu'ils savent que c'est ce Dieu-là qui va les protéger, en disant, moi, si je suis au chômage, si j'ai un bas de laine, je vais pouvoir continuer, ou pouvoir m'acheter quelque chose, ou s'il y a un souci, payer l'hôpital très cher pour certains. Donc c'est un Dieu aussi, quoi. Mais c'est le Dieu de l'argent, quoi. Mais effectivement, il n'a pas de bon à toi.
Non, c'est intéressant. L'argent, c'est de l'énergie congelée, quoi. Moi, je sais pas. Je chronique, dans ce bouquin, en tout cas, une forme de déliquescence du réel, et la déliquescence de la religion organisée, elle est importante. Mais par contre, je nie pas du tout l'essence spirituelle de l'être humain, en fait. Et je pense que dans ce bouquin, en tout cas, c'est une quête de spiritualité. C'est un bouquin qui est très spirituel, qui est complètement ouvert sur une idée justement de la ville idéale, qui est une ville forestière, enfin qui est une forêt, en fait, qui remplace la ville, en fait, et qui est de l'autre côté du voile, et qui peut être amené à remplacer le réel, ou à rentrer dans le réel, à coloniser le réel. Mais on ne sait pas du tout si ça marche, on ne sait pas du tout. Et en fait, la plupart des gens se posent cette question-là, quoi. Et dans le bouquin, en tout cas, vous savez, Montréal, c'est une ville qui est très chrétienne, hein. C'est la ville où sont clochers, quoi. Il y a des clochers partout. La plupart, d'ailleurs, sont en ce moment rachetés pour faire des condos. C'est très très chouette. Ils ont des espèces de cathédrales immenses, énormes comme ça. Et dedans, c'est que des condos, quoi. Et c'est assez dégueulasse, en fait. Et du coup, moi, je prends acte de ce qui se passe. C'est-à-dire, je vois clairement qu'en ce moment, il y a une déliquescence de la religion organisée. Enfin, ils essayent de ramener le réel à de l'essentialisme, comme ça, basé sur des écrits censés être écrits par Dieu, avoir été écrits par une divinité quelle qu'elle soit. Mais ça peut plus tenir. Justement, je pense que c'est pour ça qu'on a en ce moment des manifestations très très radicales de la religion organisée. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont menacés d'extinction et qu'ils ont besoin de. Mais ça ne veut pas dire que la pensée religieuse est pas pensée religieuse, ce que je veux dire, c'est, je le reprends en termes de latin, religare, quoi, ça veut dire vraiment le relier à. C'est pas forcément se relier à Dieu, hein, c'est se relier aux autres aussi, quoi. Et je pense que la spiritualité, c'est très important, et notamment dans un monde qui est en effondrement, je pense que cette recréation du lien entre les gens, cette profondeur pour dépasser justement les nouvelles religions organisées comme l'argent, qui est central aussi dans ce bouquin, c'est hyper important. Et on oublie aussi quelque chose qui est en train de prendre énormément la place de la religion dans la société, c'est le virtuel, c'est la donnée, c'est la data. C'est, alors là, il y a des gens qui se branlent sur la singularité, l'émergence de l'IA, les nouvelles divinités qui arrivent pour prendre contact. Moi, je ne crois pas du tout à ça, parce qu'encore une fois, c'est de la religion, quoi. Mais par contre, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental dans la manière dont on se relie par Internet, dont les réseaux sociaux fonctionnent quand ils fonctionnent bien. Et je pense que tout ce qui crée du lien, moi, m'intéresse, en fait, que ce soit du lien virtuel ou du lien réel, c'est pas grave. Pourtant, c'est qu'on crée du lien, en fait, entre les gens, et peut-être que des nouvelles formes de communauté vont s'organiser. Dans le bouquin, par exemple, il n'y a plus de réseaux virtuels, les gens ont recommencé à faire des réseaux virtuels, mais dans le réel. Ils ont fait des Facebook réels, en fait, avec du bout de carton, ou avec est-ce que t'aimes ce que je viens de faire comme activité. C'est une espèce de traduction, comme ça, du virtuel dans le réel, et je pense que c'est assez touchant, quelque part, de voir ces mécanismes à l'œuvre. Et je pense que ça arrive aujourd'hui dans les jeunes générations aussi, quoi, quand ils sont offline, des choses comme ça. Donc, je sais pas, on parle de religion organisée, et c'est vrai que souvent, dans les modèles de bouquins de SF et de fantasy, on a comme ça des grosses structures de religion organisée qui ont un paradigme sur le réel et qu'on doit détruire, qu'on doit remettre en et compagnie, quoi. Mais dans le réel, quand on le regarde bien, même si c'est ce qui se passe, il y a d'autres formes qui émergent aujourd'hui, et moi c'est ça qui m'intéresse de regarder, en fait, de manière plus proche, quoi. C'est qu'est-ce que c'est que cette spiritualité qui met en lien les gens, quoi, et qui met aussi en lien les gens avec une forme d'invisible sur lequel on n'a pas de prise, parce qu'on voit bien de toute façon qu'on n'a pas de prise sur plein de trucs dans notre monde, et que l'argent ne réglera pas nos problèmes, même si on peut se soigner à l'hôpital, ça ne réglera pas nos problèmes existentiels ou métaphysiques, quoi, pas du tout, quoi. Et c'est sûrement pas la religion organisée qui va pouvoir le faire non plus, quoi. Donc il faut bien qu'on trouve quelque chose, quoi.
Du coup, est-ce qu'on peut dire que la ville, là, elle vous sert à chacun de vous à donner une identité commune? Est-ce que c'est parce que c'est pratique de le faire sur quelque chose de pas trop étendu, donc une ville, ou est-ce que pour vous la ville, le lieu, alors là clos, mais pas trop étendu, pas à l'image d'une région ou d'un pays, est-ce que la ville peut faire partie de l'identité des gens qui y habitent, de ses habitants? Est-ce que c'est je suis de cette ville, c'est mon identité?
Il n'y a pas besoin d'écrire de la science-fiction pour ça. Je veux dire, chaque ville a son empreinte. Montréal n'est pas Bangkok, n'est pas Singapour. Et forcément, les gens qui vivent à Singapour vivent d'une manière différente qu'à Jakarta. Chaque ville amène sa propre... déjà par la géographie où elle est implantée, hein, donc ça c'est très important aussi. Est-ce qu'il y a une rivière, un fleuve qui passe à travers la ville? Ça change aussi. Est-ce qu'il y a une montagne à côté? Donc, les gens ne se sont pas installés là n'importe où à l'époque, avant que la ville grossisse. Et donc ça a une influence propre. Il y a des gens qui ne bougent jamais. Enfin, moi j'ai été voir il n'y a pas plus longtemps qu'il y a un mois, dans le nord de la France, dans une école un peu défavorisée. Et quand j'ai posé la question aux enfants, est-ce que lever la main sur qu'on a vu la mer? Et il n'y en a que 4-5 qui ont levé la main alors qu'elle est à 15 km. Ils ne bougent absolument pas de leur ville. Ils sont complètement imprégnés dans la ville. Et ça a une influence terrible sur leur devenir.
Donc ils sont plus d'une ville que d'un pays?
Ah oui, bien sûr, même d'un quartier.
Moi je suis marseillaise, donc à Marseille, quand on est petite, on nous fait réciter la main sur le cœur. Oh Marseille, tu es trop forte, tu es la plus belle, et on te fait chanter que des trucs sur Marseille. C'est Marseille, t'es trop forte, Marseille le club de foot, Marseille plus forte que la France. C'est une ville qui est très, très isolée, il y a des collines partout, il y a la mer, donc c'est un endroit où on n'a pas envie de sortir, les gens se sentent. C'est une ville grecque, c'est une vieille ville grecque, avec l'idée du territoire grec, c'est-à-dire vraiment la police. En Grèce antique, c'était vraiment la ville, puis les champs autour, puis les montagnes autour, puis le bout de mer dans lequel on pêche, puis le bout de mer dans lequel on fait la guerre. C'est Marseille, c'est ça, quoi. Et on a du mal à quitter Marseille. Et les gens qui sont à Marseille, des fois, souvent, ils ont pas envie de quitter Marseille, quoi. C'est ma ville, quoi. Et moi, c'est vrai que c'est ma ville, même si je la déteste aujourd'hui parce qu'elle a tendance à exclure les gens, la différence. Je la porterai toujours dans mon cœur, elle sera toujours avec moi, et j'écrirai toujours sur Marseille, quoi. Parce que on m'a éduqué à croire que Marseille, c'était la France, quoi. D'ailleurs, c'était intéressant. Moi, je disais à mes parents, on est toujours en France quand on a quitté Marseille. Et quand il a commencé à avoir les problèmes de racisme vraiment exprimés de manière violente dans la presse en France et tout, moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai été élevé au milieu des cités. Moi, mes frères et mes sœurs, ils étaient tous d'origine différente, quoi. J'ai jamais eu de problème dans mon enfance. Il n'y avait pas de problème à l'école. Tout le monde communiquait, tout le monde, on partageait les choses. Les religions se parlaient. Enfin, il y avait pas. Pour moi, c'est ça. Longtemps, pour moi, c'est ça la France, en fait, quoi. C'est Marseille, quoi. Il y a cette espèce d'idéal, quoi. Alors peut-être que ça, mon père me dit, ouais, ça a changé, c'est plus comme avant, machin, etc. Bon, pourquoi pas, mais en même temps, il y a cette empreinte de la ville qui, pour moi, est fondamentale. Alors, et j'ai tendance à croire que l'idée de faire partie d'un pays n'est pas forcément une bonne chose, en fait, quoi. L'idée de faire partie d'une vie de ville, moi j'ai un idéal assez grec, finalement, des choses, quoi. La ville, une ville de, un monde de cité comme ça, je pense que c'est assez intéressant. Le problème, c'est que ça crée plus de conflits, évidemment, parce qu'il y a plus d'occasions de se faire la guerre, et pour des raisons X ou Y, ou d'alliances. Mais l'idée de nation, comme ça, de tout regrouper, aujourd'hui on pose des questions, finalement, qu'est-ce que c'est que d'être français? Qu'est-ce que ça veut dire d'être français? Est-ce que c'est simplement parce qu'on parle français? Et alors, et le Québec? On peut se poser ces questions-là, quoi. Est-ce que c'est juste un territoire? Est-ce que c'est le fait d'être né là? Alors pourquoi est-ce qu'on dit à certaines personnes qui sont d'une certaine couleur, ah mais non, t'es pas français parce que moi je suis français de souche, machin? Ça n'a aucun sens, quoi. Alors que la ville a tendance à accepter tout accepter, puisque ben, l'immigration, les machins, c'est beaucoup plus voilà, c'est beaucoup plus centré, c'est beaucoup plus là, quoi. Je sais pas. Pour moi, c'est plus naturel comme modèle, en tout cas.
On arrive directement, c'est parfait la transition sur Nouvelle-Sparte, qui est nation et ville, qui est la cité, quoi.
Oui, alors avec une, je vais établir une petite différence hein, avec ce que vient de dire Sabrina. C'est que dans le sens antique, la cité, l'appartenance identitaire était liée aux cités. Les cités grecques, d'abord, tout le monde avait la conscience d'appartenir au monde grec. Il y avait le monde grec d'un côté, et puis le monde non grec à côté, qu'on pouvait appeler barbare, peu importe le nom, il n'y a pas de mépris dedans, il y a seulement une différence. Voilà le monde grec. Et au sein du monde grec, c'était les cités. Et effectivement, les cités se sont fait une guerre acharnée qui ont d'ailleurs causé la perte du monde grec. Mais au départ, la cité est vraiment le vecteur d'identité. Je pense qu'aujourd'hui, les villes telles qu'on les connaît, en tout cas en Occident, c'est nouveau. C'est nouveau parce que justement, elles amalgament plein d'identités, en fait. Et voilà, alors, je me suis pas projeté dans est-ce qu'aujourd'hui les villes pourraient remplacer les nations. Je ne sais pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse pour répondre à la question que tu avais posée, pourquoi le choix de ville? C'est parce que la réalité, la modernité est urbaine. Et d'ailleurs, donc si on veut, je dirais malheureusement, parce que moi je suis un rural, voilà, moi je vis dans la campagne, les villes c'est bien de temps en temps, mais pas trop. Et si on veut parler si on veut mettre en exergue, si on veut prendre un exemple parlant, on est obligé, enfin. C'est plus facile de le faire à travers une cité parce que ça regroupe davantage de monde, ça permet davantage de projection. Mais la réalité est urbaine et d'ailleurs, toute la dynamique actuelle est une dynamique anti-rurale. On parle énormément des périphéries des villes, des espaces qui sont délaissés, etc. Bon, tous ces gens-là sont jamais allés dans les campagnes françaises, dans la ruralité profonde française. Les départements les plus pauvres sont certainement pas les départements urbains, c'est des départements comme la Creuse, etc. Et rien n'est fait pour inverser le processus. On limite, on emmerde encore plus les gens avec la limitation de vitesse. On supprime régulièrement des classes, etc., etc. Un petit peu comme si on disait mais bon, c'est fini la ruralité, maintenant c'est les villes, rapprochez-vous des villes, venez dans les villes. Donc, je pense que l'avenir sera de gré ou de force organisé autour de la ville, en fait. Donc, comme les auteurs de science-fiction généralement anticipent, on aime à s'emparer dès maintenant de cette réalité et de ce futur qui le sera encore plus.
Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je pensais à Judge Dredd. Dans Judge Dredd, cette bande dessinée géniale, toutes les villes sont organisées en méga city, en blocs, en énormes blocs. Et les blocs, en fait, c'est pas du tout les blocs à la québécoise, c'est vraiment des blocs d'immeubles, en fait, qui deviennent des mondes, qui deviennent des villes en tant que telles, en fait, quoi. Et qui se font la guerre de fenêtre en fenêtre. Et c'est assez génial comme truc. Si vous avez, c'est, pour moi, il y a une vision du futur là-dedans. C'est très juste ce que tu dis sur les villes. Moi, je m'en suis pas rendu compte. C'est vrai qu'on écrit. Moi, je suis une créature urbaine, donc j'ai tendance à décrire ce que je vois. Mais c'est vrai qu'on anticipe beaucoup, beaucoup ça. Alors qu'en fait, si on pragmatiquement, il faudrait que la ruralité. Enfin, moi, j'aime pas ce mot de ruralité parce qu'il y a un côté péjoratif. Mais tu vois. Mais il faudrait que ce soit ça l'enjeu en fait du futur. Quoi, ça serait l'habitation du territoire, la construction du territoire avec la nature, avec nos champs, avec la manière dont on, avec notre biosphère et tout. Quoi, ça n'a aucun sens de vouloir tout réduire aux villes. Quoi, et c'est vrai que quand on regarde la SF, on est tout le temps dans la concentration des villes et qui se concentrent encore plus à l'intérieur d'elles-mêmes. Quoi, là. On parle de Judge Dredd là, c'est ça. C'est exactement. Excuse-moi.
Et qui s'étendent. Pardon. Excuse-moi.
Je suis un grand précurseur parce que je suis creusois. Hein, donc. Merci pour la référence, monsieur. Donc je me projette, moi. Hein. Toi, tu es qu'observateur.
Oui, je voulais pas dire qu'on mangeait mal hein, dans la Creuse. Hein.
Donc non seulement il m'attaque sur mon lieu, mais il m'attaque aussi sur mon physique.
Et il ne sera plus invité à dîner, là, c'est mort.
L'amitié entre auteurs est quelque chose d'indéfectible. Bon, non, c'est vrai qu'il y a eu le grand basculement il y a peu de temps, je crois, il y a moins de 4-5 ans, où il y a plus de gens en ville sur la planète que de gens à la campagne. Mais je pense que c'est aussi une manière de pouvoir gérer la population, parce que faisons un 360 degrés de seconde, mettons-nous à la place de n'importe quel gouvernement, eh bien, il ne gère pas une personne comme on en gère deux, quand on en gère 100, quand on en gère 1000, quand on en gère plusieurs millions. Et je pense que dans une ville, eh bien, on peut installer une flopée de caméras, tandis qu'en Creuse, s'il faut mettre une caméra à chaque baraque, ça va coûter une fortune, hein, parce qu'elles sont éloignées les unes des autres. Donc voilà, on concentre peut-être les problèmes, mais on concentre aussi la manière de gérer ces problèmes. Et d'où ces architectes qui planchent, je vous dis, sur des immeubles à 1 million de personnes. Parce que là, on gérera, et puis donc il y aura peut-être la police pourra gérer les ascenseurs pour empêcher les gens du bas des étages de monter vers les riches pour manifester. Enfin, il y a des choses intéressantes à faire là-dessus, quoi. Et bon, voilà. Donc, mais donc, s'il y a vraiment l'apocalypse, oui, prenez vos valises, allez en Creuse. Hein, c'est...
Oui. Je pense qu'Alain a tout à fait raison. C'est également sans sombrer dans une théorie complotiste, mais il y a une dynamique qui va vers le contrôle des populations, parce que la grande peur des gouvernements, quels qu'ils soient, c'est les ouailles dont on a la charge nous échappent. Et donc on va vers ça. On parle beaucoup d'Orwell en ce moment avec la nouvelle traduction, etc. Mais Orwell a cessé d'être un livre de science-fiction. C'est devenu un manuel à l'usage des gouvernants. C'est ça.
Du coup, on est presque à la fin et on fait que aborder le sujet. Moi, j'ai l'impression que là, on est vraiment dans cette ville réelle, ville imaginaire. Chacun de vous, non pas dans un modèle ou un contre-modèle, mais plutôt la ville comme le lieu intéressant pour poser toutes ces questions sur la société, sur l'identité, sur le « je suis », sur le « nous sommes ». Et du coup, voilà, est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot là-dessus ? Est-ce que on a fait le tour ou pas ?
Toute influence et à long terme, bon, je parlais de la Creuse. La Creuse était... Les spécialités de la Creuse, c'est les maçons creusois qui, depuis le Moyen-Âge, sont partis hors de la Creuse parce qu'ils crevaient de faim. Et la division des terres, qui était déjà pauvre à chaque fois qu'il y avait deux fils, on coupait la ferme en deux. Et donc, au bout d'un moment, ça ne suffisait plus. Donc, ils partaient construire des maisons. C'est eux qui ont fait tout le Paris haussmannien, le métro, même la Tour Eiffel, ils y étaient aussi. Faire grève, ça vient de la place de grève en face de l'hôtel de ville. Et les maçons creusois venaient tous les matins, attendaient que les patrons viennent les chercher pour la journée, pour faire le boulot. Donc c'était ça, faire grève. C'était attendre. Quoi. Mais ces maçons-là, qui étaient très pauvres, qui étaient mal vus des Parisiens, parce qu'ils parlaient patois, ils parlaient pas français, ils venaient piquer, soi-disant, le boulot des Parisiens parce qu'ils travaillaient des conditions beaucoup plus difficile. N'empêche que lorsqu'ils étaient à Paris, il y avait des idées. Et ils ont ramené chez eux, en Creuse, des idées socialistes. Et depuis 150 ans, la Creuse est un pôle un peu socialiste, même si maintenant, ça, que le Front National, alors qu'il y a... Ils n'ont jamais vu un maghrébin en Creuse, mais ça ne fait rien, ils ont la trouille. Mais n'empêche que ces idées-là, la Creuse, alors qu'il y avait la Haute-Vienne à côté et tout, qui était plutôt de droite, votait à gauche sans savoir que c'était l'héritage des maçons 150 ans avant. Donc il y a vraiment, on est le résultat de notre lieu, de ce qu'on croit en religion, de du travail que l'on va faire. Enfin, ça nous façonne d'une manière beaucoup plus profonde que l'on croit. Donc, il y a peut-être des gouvernants qui peuvent jouer là-dessus. J'ai l'air d'avoir pété l'ambiance, là.
Il n'y a pas que la Creuse dans la vie, il y a la Bretagne aussi. Je tiens à le dire, c'est important. Là aussi, pour l'apocalypse, c'est important, la Bretagne, parce que les vents, ils vont là-bas, quoi. Donc, c'est sur la Creuse qu'ils tombent les vents, quoi, radioactifs. Hein. Va sur la Bretagne.
Mais, hein. Oui, mais la montée des eaux, la Creuse, nous...
Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je me pose la question du virtuel, en fait. Moi, je me pose vachement... On réfléchit, là. Hein. On n'est pas en train de... Je sais pas si la ville est de venir. Mais moi, j'ai l'impression, quand je vous parle, là, j'ai l'impression d'être dégoûté des villes, maintenant. Quoi. J'ai envie de me dire, oh, je vais essayer d'écrire sur autre chose que les villes. Et en même temps, je vais écrire sur Euro Disney comme ville, mon prochain bouquin. Donc, je crois qu'il va falloir que je me pose des questions là-dessus. Mais j'ai envie de poser la question de la virtualité, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que la virtualité, la nature, ce que j'appelle l'hyper-nature, c'est-à-dire cette espèce de nature recréée, cette espèce de nature digitale qui commence à, numérique, qui commence à produire ses propres déchets, qui commence à produire ses propres systèmes et tout, va pas être un territoire à coloniser où les gens vont vouloir vivre. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir de problème à vivre dans des cages à poules, machin. Ils vont plus s'intéresser à leur territoire, ils vont s'intéresser à leur territoire intérieur et la manière dont leur psychisme va se transporter dans des espèces d'univers impossible comme ça, avec des paysages incroyables, vraiment de la nature à coloniser, de la nature à épouser ou à entrer en symbiose avec. Et j'ai l'impression que le mouvement, il est aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'il est dans la colonisation de notre imaginaire et les villes de notre imaginaire, les villes virtuelles, les territoires virtuels, et que finalement, cette espèce de concentration, de densification à un moment donné, elle va se faire aussi vers l'intérieur de l'immatériel, en fait, quoi. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce que ce serait, je veux dire, si on prend l'idée de Facebook comme de cité, quoi. C'est totalement cohérent, hein. Chacun habite chez soi, chacun son petit truc, chacun son mur d'ailleurs. On parle de mur sur Facebook, c'est un mur. C'est les murs qui séparent les murs des appartements des autres, quoi. Ces nouvelles formes d'habitation-là, est-ce qu'elles existent à partir du moment où le corps va commencer à disparaître comme ça, doucement, et c'est intéressant aussi à creuser, je sais pas.
On n'est pas fini de t'emmerder avec les chats, alors. Hein.
Ah, non, je m'étonne.
Non, mais on... La société, la Terre, là, en ce moment, c'est une vraie cocotte minute, quoi. La démographie pousse, les réserves diminuent. Donc, il y a deux solutions. C'est où on régresse et on retombe au Moyen-Âge et les 9 dixièmes de la population disparaissent sous les bombes et on redémarre tout doucement. Ou alors, on s'enfuit, quoi. C'est-à-dire qu'on va ailleurs et puis on va reproduire et piller d'autres planètes. Et puis, ça y est, l'expansion humaine se met en marche. Hein. Bon, y a quelqu'un qui a dit la Terre est le berceau de l'humanité, mais qui a envie de rester toute sa vie dans un berceau. C'est ça. C'est-à-dire que là, on sent bien que ça pousse. Donc, une manière de faire accepter que ça pousse et puis que la technologie n'arrive pas à ce qu'on aille plus loin et visiter d'autres planètes assez facilement, c'est donc ce que tu racontes, le virtuel. Mais n'empêche, moi, ce qui me gêne dans cette histoire de virtualité, c'est que c'est quand même d'autres gens qui vont construire ce monde virtuel. Donc, il va y avoir de nouveaux architectes, peut-être numériques, et ils vont refaire une ville idéale, mais à leur image. Tu vois, c'est ça, se dire, bon, ok, je vais dans la virtualité pour me libérer du monde d'aujourd'hui très sinistre, dans mon petit studio minable, mais j'amène ma clé USB et puis d'un seul coup, j'ai un paysage de montagne qui apparaît tout au long des murs et c'est magnifique avec les odeurs et tout, même si on veut. Mais n'empêche que c'est quand même, on va dépendre de créateurs qui vont nous donner ce qu'on va bien vouloir avaler, quoi.
et surtout, enfin, surtout la question, c'est quel est le moyen de production. Enfin, je veux dire, avec quoi on produit Internet, avec l'électricité, qui contrôle l'électricité, avec quoi on produit le virtuel. Est-ce que c'est de l'utilisateur, les utilisateurs qui vont construire leur propre chose, ou est-ce que ça sera des programmes qui seront faits pour eux? Voilà, on en est là. Ça, c'est des vraies questions. De toute façon, ça mène nulle part, le virtuel. C'est pas possible que ça mène où que ce soit. Si on enlève le corps, il y a plus rien, quoi. Je veux dire, je pense qu'on, enfin voilà, il y a forcément une autre voie que l'espace, le virtuel ou les bombes, quoi. C'est à nous aussi de trouver ça. Peut-être qu'il faut aussi qu'on commence à se poser des questions là-dessus, quoi. Je sais pas. Bon, Eric.
Tu conclus?
Oui, voilà, difficile.
C'est difficile, on ne peut pas conclure.
On est sorti de. On a l'impression de seulement commencer à aborder les thèmes. Ville réelle, ville imaginaire. Nous, on. Ce qui est important de rappeler, c'est que les écrivains s'amusent à poser des questions et ils apportent jamais de réponses parce que c'est pas vraiment leur métier, mais proposer des pistes, on propose des visions, on propose de matière à réflexion et c'est ce qui est génial, c'est de pouvoir se retrouver auteur, lecteur sur ces bases, enfin exactement comme nous à la fin de la conférence, alors qu'il faudrait qu'on la commence, moyen. Mais de.
Après,
de,
il me semble, enfin, ce qui pourrait être intéressant, cette année, il y a eu le premier colloque, là, juste avant, donc le premier colloque des Imaginales sur Fantasy et Histoire. Et moi, en vous écoutant, je me dis, mais on peut faire 2 jours de colloque sur ville réelle, ville imaginaire, pour explorer vos univers à tous les trois, mais même d'essayer d'apporter quelques éléments de réponse un petit peu plus poussés.
Surtout que là, qu'on a parlé que des villes imaginaires, on n'a pas parlé des villes réelles. Hein. Donc, si vous voulez bien rester 1 heure de plus, s'il vous plaît.
Je vous remercie énormément. Je suis désolée, on doit arrêter.